Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Avoir été une reine de la nuit ne vous a pas empêché d'ensoleiller bien des cœurs avec des chansons qui ont fait de vous, non pas la grande Zoa, mais la grande Régine. Bonjour chère Régine.
Bonjour mon chéri. Alors
Il y a un coffret exceptionnel avec toutes vos chansons, je crois qu'il y en a 245. Ça s'appelle de la petite poule à la grande Zoa, c'est Marianne Mélody qui sort ça. On va en parler tout au long de l'émission puisqu'on va évoquer vos chansons à travers des dates clés, Régine.
Alors, mais ma petite poule, c'est une chanson.
On est d'accord. Oui, bah bien sûr, j'avais compris.
Il y a plein de gens qui m'appellent ma petite poule.
Oui.
Et mais c'est une chanson que m'a fait Félix Dré.
Voilà.
Et qui est génial.
Mais ce qui est génial aussi, c'est ce coffret exceptionnel avec en plus une sorte de boa dedans. C'est assez
étonnant. Comme une sorte de boa. Un boa,
un vrai boa. Et donc, on va évoquer cet album et à travers des chansons et des dates clés. Et j'ai trouvé une date importante pour vous dans la chanson, c'est le 8 février 1965. Ce jour-là, vous êtes dans Discorama, Régine, et vous chantez ceci.
Nounours, à la sortie vous m'attendez. Le lendemain à Maison Lafitte, gentiment vous me conduisez. Aux courses.
Voilà, vous êtes présenté par Jacques Chazot dans cette émission, vous en souvenez?
Absolument.
Ouais.
Jacques Chazot était un garçon formidable.
Oui.
Avec un humour fou. C'est lui qui a inventé Marie Chantal.
Oui.
Dont tout le monde se sert. Et Denise Glaser était fabuleuse.
Voilà, il était avec vous, Jacques Chazot, très lié, c'est-à-dire que ça faisait partie de vos amis, et il vous a présenté de façon vraiment émouvante et chaleureuse, alors qu'il avait de l'humour, là c'était de l'amour.
C'est vrai.
Et cette chanson, Nounours, a été écrite par Charles Aznavour.
C'est la première chanson que j'ai chantée.
Voilà. Et c'est lui, et celle qui vous a conseillé de chanter, c'est René Lebas, qu'on a un peu oublié aujourd'hui.
Écoutez, René Lebas, en vérité, c'était une copine, vaguement, et elle me disait, tu devrais chanter, t'as une voix spéciale. Je lui ai dit, tu veux dire quoi, une voix spéciale? Une voix de titi, oui. Dit, non, elle disait, t'as un son de voix. Et avec... Donc, elle est venue me demander si je voulais chanter une chanson pour un film où il y avait... Jean Moreau... Quoi, un truc qui n'a pas existé. Quoi.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai acheté un piano tout de suite et j'ai eu un professeur russe. Donc, on buvait le thé, hein, parce que moi, je me couchais très tard. On buvait le thé et on ne faisait aucune note, parce que de toute façon, j'avais décidé de ne pas chanter quoi que ce soit de ma voix. Donc, je ne connais aucune note. Quand un pianiste me dit « Vous chantez dans quel ton ?», j'ai dit « Écoutez, laissez-moi partir et vous me suivez. » Voilà, c'est tout.
Exactement. Alors, René Lebas, il faut le savoir, a été une chanteuse populaire. On l'appelle la mère de la mer parce qu'elle a été la première chanteuse à interpréter la mer après Charles Trenet. C'est la première
c'est
femme à avoir ce...
Elle était aussi une femme qui avait un don pour trouver les chansons. Mes deux directeurs artistiques étaient quand même... celui qui a fait... Tire l'aiguille, ma fille.
Oui, c'était Michel Arnaud qui avait chanté cette chanson.
Hein, elle a chanté cette chanson qui a été un tube. Mais Eddy Marnet, donc.
Eddy Marnet.
Qui était un parolier mais fabuleux et surtout un homme d'un goût qui a fait la comédie musicale, qui est d'ailleurs dans le coffret.
Oui,
c'est
Lumière
la première
de Belleville,
fois.
Oui.
Et Lumière de Belleville, qui était le nom du café de mon père. Et je sortais la terrasse le matin, 5 heures, en sortant presque de boîte, quoi. Je sortais déjà, en douce, bien sûr.
Alors, la chanson, finalement, vous y songiez depuis l'âge de 10 ans. Vous aviez envie de chanter, Régine?
J'ai toujours chanté, pour moi. Et puis alors, j'avais une bougnate, j'habitais dans le 11e. J'avais une bougnate qui chantait toutes les chansons de Fréhel. Et moi, j'ai adoré le répertoire de Fréhel, et j'ai adoré Fréhel.
Oui.
Ce qui a fait... que cet amour de Fréhel a fait que j'ai rencontré le garçon qui l'aimait le plus et qui m'a fait cette fameuse chanson « Les petits papiers ».
Oui, c'est Serge Gainsbourg. C'est-à-dire Serge Gainsbourg a connu Fréhel, je crois, à 10 ans. Il avait une croix d'honneur à l'école. Il a croisé Fréhel, qu'il l'a trouvé sympa, qu'il lui a offert un Diabolo Grenadine dans un
café. Absolument. Et moi, Fréhel, je l'ai rencontré... chez Tonton, oui. Place Pigalle, qui était un cabaret où a commencé Bécaud.
Oui.
Et où les garçons déjà chantaient avec les clients.
Voilà. Il faut savoir que Fréhel était une star de la chanson en France et en Russie. C'est-à-dire qu'avant la révolution de 1917, elle est partie en Russie. Elle a triomphé là-bas, mais on lui jetait des diamants sur scène, des bouquets de fleurs avec des rubis, et elle a tout perdu à la révolution de 1917. Et elle a été aussi la maîtresse de Maurice Chevalier avant Miss Tinguette.
J'ai failli le dire, mais bon. Et Miss Tinguette lui a piqué Maurice Chevalier et elle est tombée dans l'alcool. Elle est morte de chagrin d'amour.
Exactement, elle a sombré dans l'alcool.
Moi, je trouve son histoire formidable et puis j'adore sa voix.
Et d'ailleurs, j'adore
ses chansons.
Voilà, et justement, vous l'avez chanté avec Tel qu'il est.
Ce n'est pas un Apollon, mon Jules. Il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts.
Et sur votre album.
Moi qu'il a
oh. Voilà. Et sur votre album, il y a dans ce coffret la version. De Régine qui chante Tel qu'il est, parce que vous avez repris Damia, Fréhel, toutes ces...
Oui, j'ai fait un disque qui s'appelait Méli Mélo,
oui.
Et j'ai repris les trois femmes que je trouvais les plus poignantes, les plus de talent, quoi.
Voilà. Et Damia, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais elle a vécu avec Raoul Breton, l'éditeur qui a découvert Traîner Aznavour et Bécaud, et elle a porté une petite robe noire, et c'est en la voyant, cette robe noire, que Piaf a eu l'idée de porter une robe noire. Je ne sais pas
oui,
si vous le savez.
Oui, mais... Damien avait des très beaux bras. Alors, elle portait toujours des robes sans manches.
Alors, il y a quelqu'un aussi, bon, quand vous avez commencé dans la nuit, notamment dans le club de la rue du Four, un jour, vous recevez une troupe d'Américains venus jouer à l'Alhambra. Et c'est comme ça que vous allez découvrir, je crois, le twist. Avec ces Américains...
Non, pas du tout.
Parce que c'est la légende qui court.
C'est une fausse légende. La vraie légende qui est écrite sur tous les journaux et tout... C'est que moi, j'étais à l'Alhambra,
oui.
Quand la troupe de White Side Story est arrivée. J'ai donc été dans les coulisses tout de suite parce que j'avais un ami que je connaissais déjà des États-Unis, qui était Michael Bennett, qui a écrit Dream Girl, qui a écrit New York, New York. Vous savez, c'est... Et tout d'un coup, je voyais tous ces garçons avant de rentrer sur scène, et les filles, faire ce geste comme ça. Et... Je lui dis, c'est marrant ce truc-là. C'est... Alors je lui dis, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, oh là là, c'est une vieille chanson qui n'a pas marché. Et j'ai dit, mais qui la chantait? Il m'a dit, Chubby Checker. Alors on a téléphoné à sa sœur. À l'époque, les téléphones étaient collés sur le mur. Donc on a appelé sa sœur en Amérique et on s'est fait envoyer le disque. Évidemment, moi qui connaissais strictement rien, comment on dépose, nanana. C'est Barclay qui a pris le disque, etc. Et la presse écrivait, j'étais un peu plus ronde que maintenant.
Twist again, je crois, non?
Twist again.
Oui.
Twist again.
Oui, c'est ça.
Avec twist again, avec une gaine.
Voilà.
Et ça me faisait beaucoup rire.
Et, vous savez, et le twist a été lancé chez vous, dans ce...
Chez moi.
Rue du Four.
Tous ces jeunes gens, filles et garçons, venaient. Ils se mettaient à danser comme des fous. Et les gens, autour de leur table, se levaient. À ce moment-là, c'était chez Régine, hein. C'était un square. Voilà. Alors, il y avait des tables qu'on avait préfabriquées, des tissus rouges dessus avec des trous de cigarettes. Enfin, c'était vraiment juste la fin de la mauvaise période, enfin de la période rigolote. Rigolote dans son sens. Mais je donnais des sucettes, enfin bref.
On s'amusait beaucoup.
N'existait pas encore.
Oui. Hein? On s'amusait beaucoup chez vous.
On s'amusait beaucoup.
Et alors, Chubby Checker, effectivement, cette chanson, bah, c'était Let's Twist Again. Alors, il faut savoir qu'au départ, Chubby Checker, je ne sais pas si vous le savez, Régine était marchand de poulets dans une ferme aux États-Unis. Il a découvert cette chanson. La première chanson, c'est Viens danser le twist. Qu'il a lancé, et ensuite Let's Twist Again, qui a été un véritable succès mondial grâce à vous, parce que personne ne connaissait cette chanson.
Oui, parce qu'elle ne marchait pas.
Oui, rien.
Et grâce au twist qui a été relancé, le monde entier a dansé le twist, et dans tous les journaux américains, il y a des photos très drôles, il y a des... ils ont envoyé des reporters pour suivre ce personnage qui avait inventé ça. Et la femme de Burton, celui qui a
épousé... Richard Burton.
Richard Burton. Elle a ouvert une boîte qu'elle a appelée Twist. Et donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'allais souvent, hein, mais juste avant que j'ouvre la mienne de boîte, elle avait un espèce de grand salon, comme ça, elle était toute très blonde, un peu ronde, et très sympa. Et tout le monde dansait le Twist.
Et très gai. Et vous avez été la première à danser le Twist. Je vous ai vu sur des images où vous dansez pendant des heures et des heures le Twist.
Des heures et des heures. Ça fait, pour dire les heures le nombre d'heures que j'ai dansé en général, c'est énorme. Oui. Mais de toute façon, ce qui était, j'ai toujours lancé les danses. Le dimanche, au Whisky à Gogo, c'était école de samba.
Le cha-cha aussi.
Et de cha-cha. Oui. Et j'avais des macarons. Et des grands patrons qui sont devenus des grands patrons me montrent encore qu'ils ont le macaron professeur de cha-cha.
Voilà. Vous avez fait bien d'autres choses et il y a ce coffret. On en reparle dans quelques instants à travers une autre date importante pour vous. C'est le 13 mars 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Régine.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Régine. Il y a ce coffret chez Marianne Mélodie de La Petite Poule à la Grande Zoa. Et il y a des dates, 13 mars 1973. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un grand show à Bobino. Je crois que c'est le début du grand show, d'un show de vos rêves à Bobino, où il n'y a pas seulement un présentateur, mais un véritable spectacle.
Il y a mon serpent.
Exactement.
Ah ben, non mais moi... J'avais présenté au gala des artistes. Je voulais les lions.
Oui.
Bon, les lions étaient pris. C'était Jean-Pierre Cassel qui présentait.
Le gala des artistes, il faut rappeler, c'était des artistes qui, pour une bonne cause, faisaient un numéro de cirque devant le Tout Paris un soir par an.
Voilà. Et il y avait un monsieur loyal qui était nommé. Donc là, c'était Jean-Pierre Cassel. Et je dis à Jean-Pierre, je te préviens, moi, je veux les lions. Il m'a dit, c'est pas possible, les lions sont pris. Tout est pris, il reste les serpents. Alors je lui dis, écoute, moi, je ne toucherai pas un serpent, quoi qu'il arrive, alors je vais pas faire le gala. J'arrive quand même, j'avais rendez-vous avec Joseph Bouglione, avec qui je suis devenu très très ami, et je suis très ami avec tous les Bouglione, qui sont des gens formidables. Et je vois trois serpents, mais gigantesques, et on veut absolument m'en fourrer un sur le dos. J'ai jamais de la vie, je prends la porte de sortie, la poutre d'escampette, c'est le cas de le dire, et je tombe sur qui? Sur Fellini. Alors, il y a beaucoup de gens qui écoutent cette émission, qui vont l'écouter, je sais pas, ou qui l'écoutent en gros.
On a de plus en plus d'auditeurs.
Ils se demandent qui c'est celui-là, qu'est-ce que c'est ça. Alors, prenez un livre et regardez, parce que c'est des gens extraordinaires.
Fellini, la Dolce Vita.
Et oui. Les rencontrer au coin de la rue, maintenant, c'est difficile. Oh. Bon, alors. Je tombe sur Fellini, qui m'aimait beaucoup, moi je l'aimais beaucoup aussi, et il me dit, mais où tu vas? J'ai dit, où je m'en vais? Je me dis, tous ces fous, là, ils veulent me faire mettre des serpents. Mais viens avec moi, tu vas voir comme c'est doux, comme c'est agréable. Et il me ramène auprès de Joseph. Il faisait à ce moment-là un grand film sur les cirques. Et mine de rien, il me met un serpent sur les épaules. Vraiment, avoir le sang glacé, vraiment, j'ai su ce que ça voulait dire. J'étais raide, j'étais comme devenu un bloc de glace. Et tout d'un coup, je sens quelque chose qui passe sur mes cheveux. C'est le serpent qui était très content avec moi, qui était tombé amoureux, qui sortait sa tête de ma tête. Enfin bref, c'était une histoire de fou. Et puis, voilà, je suis tombée folle amoureuse des serpents. J'aime les serpents.
Et d'ailleurs, vous avez adopté
un serpent.
Oui.
Mais en signe génois.
Ah ben oui. Et vous avez adopté un serpent, Philibert, qui a vécu un an chez
Bravo.
Vous.
Bravo. Philibert. Alors, mon coiffeur, qui était un garçon délicieux, comme je n'étais pas là, il m'a proposé de le garder. Alors, j'ai dit, tu fais très attention à lui et tout. Et alors, non, d'abord, je fais mon show à Bobino et je dis, mon serpent est enrhumé. Et tous. Ils me regardent tous comme une folle. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là, son serpent qui... Alors, mes musiciens, chaque fois que je m'approchais d'eux, ils faisaient une fausse note, tellement ils étaient terrorisés. Mais je vous dis qu'il tousse, il n'est pas bien. Alors, le garçon qui m'avait vendu le serpent, et c'est celui qui fournissait le Medrano. Il avait apporté, dans un instant où on n'était pas là, une boîte avec des petites souris. C'était un dimanche, l'après-midi, et on arrive et on voit une boîte tout à fait rongée et des serpents et des souris qui se baladent partout. Alors nous voilà tous à la course aux souris qu'on n'arrivait pas à attraper. Donc les gens sont rentrés une heure en retard, ils étaient terrifiés par les souris. Bref, on en a attrapé une ou deux et on a essayé de lui en faire manger une et il n'y avait rien à faire. Alors Carmen Tessier, qui était la grande
chroniqueuse de tout Paris,
chroniqueuse de réputée et crainte, parce qu'elle n'avait pas d'autre. Et quand on avait une ligne d'elle sur nous, on était, tout de suite, c'était... Alors, elle s'était prise d'amitié pour moi. Elle a mis une annonce cherchant une personne dévouée qui a l'habitude des serpents pour soigner le serpent de Régine qui a un rhume. Il y a un type qui sonne et il dit, je suis là avec mon serpent. On lui dit, c'est quoi votre serpent? Il dit, c'est un boa qui pèse 80 kilos, quelque chose comme ça. Et alors, il dit, je viens pour le serpent qui est malade. Je lui dis, vous êtes vétérinaire? Il me dit, non, je ne suis pas vétérinaire, mais croyez-moi, mon serpent est dans ma voiture qui est grande ouverte, personne ne s'approche. Et il dit, je sais ce qu'il faut faire. Donc, il s'approche de mon serpent, il lui prend la gorge comme ça, il ouvre à l'autre... Philibert, je croyais qu'on le menait, je lui ai dit, ne lui faites pas de mal, et lui envoyait des saucisses de Francfort, avec une grosse seringue, et on l'a nourri comme ça pendant un mois. Il avait vraiment une grosse grippe. J'ai encore envoyé les saucisses. Et alors, on lui avait fait un vivarium avec un arbre, un ruisseau, enfin, c'était la folie. Les secrétaires ne voulaient plus travailler, enfin... Tout l'immeuble se plaignait qu'ils avaient peur que de rencontrer le serpent dans les escaliers. Bref, un jour je pars et je laisse Philibert à mon coiffeur. Et je reviens, il revient sans Philibert. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait de mon Philibert? Il me dit, mademoiselle. Parce que vous savez que mon vrai titre, c'est pas Reine de la Nuit, c'est mademoiselle.
Oui.
Hein? Quand je me suis mariée, Alain Delon m'a envoyé une lettre où il est marqué à Mademoiselle Régine. Et il a dit, mon cher Roger, c'était le nom du mari que je venais d'épouser. J'en ai pas épousé beaucoup. Deux, c'est tout. Et Régine sera toujours pour moi Mademoiselle Régine.
Alors, j'en reviens à ce gars-là, parce qu'il faut quand même qu'on écoute des chansons. Il y en a une qui est dans ce spectacle de Bobino, qui est J'irai pleurer à Bilbao.
Elle est géniale, celle-là.
J'irai à Bilbao pour un amour qui va mourir ou qui revient, à pied, en avion, en bateau. J'irai pleurer à Bilbao.
Belle chanson, hein, ça aussi. C'est une chanson de joie comme on n'en fait plus aujourd'hui, Régine.
Je ne sais pas si c'est une chanson de voix, mais c'est une chanson très marrante.
Voilà.
Et... J'irai pleurer, et rien que le titre, j'irai pleurer à Bilbao. Alors moi, j'ai été à Bilbao, j'ai eu une boîte, moi. Hein. Et j'ai été voir Valparaiso. C'est une horreur. C'est un port horrible, sale. Oh. Vraiment.
Oui, vous n'êtes pas allé qu'à Bilbao. On en reparle dans quelques instants avec une autre date, le 17 janvier 1970. À tout de suite sur Sud Radio avec Régine.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Régine, avec ce coffret dont on va reparler de 245 chansons. Et elles sont dans notre histoire avec une date clé aussi, c'est le 17 janvier 1970, New York, le Carnegie Hall. Et ça, c'est une histoire incroyable parce que personne ne voulait vous produire, Régine.
Alors, non, personne ne voulait me produire, donc en fait... Le Carnegie Hall, je connaissais un descendant qui m'expliquait pourquoi son arrière-grand-père avait fait le Carnegie Hall, etc. Et Barclay avait fait une grande fête pour la première de Charles Aznavour à New York.
Oui, il avait loué un avion d'ailleurs pour les invités.
Alors, donc je suis partie dans l'avion, on a été dans un nouvel hôtel, l'America, qui est aujourd'hui un doit être horrible, petite chambre. Et
vous avez eu envie de faire ce
lieu ? J'ai compris comment ça marchait, ce truc-là. Ouais. En fait, il faut trouver un producteur à New York qui le prend sur son nom, mais c'est vous qui payez. Et il fallait louer le Carnegie Hall. C'était 500 euros, ce qui n'était rien du tout. Enfin, ce n'était pas des euros à cette époque-là. Et ma situation me permettait de le louer. Mais ce qu'on ne savait pas, bien sûr, parce que le monsieur qu'on louait, on le payait pour nous aider à mettre ça en place. Et il y avait RTL qui était venu pour filmer. Enfin, pour filmer et pour... Et pour retraduire le concert. Et j'avais demandé à Mort Schumann, qui était un copain, et qui faisait au village, Jacques Brel is still in live in Paris. Ta-ta-ta. Et Jacques Brel était là. Donc, je dis à Jacques Brel, je ne vous dirai pas tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on s'est dit plein de choses, et c'était un homme sublime, et vous pouvez rester des heures à l'entendre. Mais, et c'était vraiment mon idole. Mais Mort, je lui dis, moi je ne parle pas l'anglais, il faut absolument que tu dises les jokes, parce que quand on fait un concert, on doit dire des jokes. Les jokes, c'est des blagues. Parce que les Américains, ils adorent entendre des blagues. Ce qui fait que tous les artistes préparent des blagues avec des mecs qui ont l'habitude de raconter des trucs. Alors il me dit, mais jamais de la vie, monter sur le Carnegie Hall, tu ne te rends pas compte, c'est presque impossible. J'ai dit, écoute, si tu ne fais pas ça pour moi, je ne te parle plus. Bref, je le mets derrière un paravent. Non, d'abord, j'arrive pour répéter, il y avait 500 chaises, parce qu'il y avait eu un concert juste avant, et il y avait encore les 500 chaises des musiciens. Bon, 500, 400, 300, je ne sais pas. Je ne sais plus, mais c'était tellement, ça me paraissait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces chaises-là ? Ah, mais vous n'avez pas loué pour répéter. Vous avez loué seulement pour faire une prestation. Alors, il a fallu qu'on est allé à Harlem, on a trouvé une salle, et mes musiciens sont arrivés. Moi, j'ai loué un avion, et on a fait un avion avec pour que tout le monde vienne voir ma déconfiture. Parce que personne ne croyait que j'allais faire un
succès.
Un succès. En plus, c'était le 16 janvier. 16 janvier, hein, c'est bien ça la date.
Oui.
Je m'étais marié le 6, déjà il neigeait à mort à Paris. Et la personne qui représentait la France, qui était un grand présentateur, il a dit, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Il y a 16 cm de neige. Nous sommes le 16 janvier. Les Américains ne sortent pas. Ils ont peur que les ascenseurs tombent en panne. Alors moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Il faut que je trouve une idée. Alors, je venais de faire un film qui s'appelait Le mariage, Mazel Tov ou le mariage. Je vais vous dire que le Yiddish m'a bien aidé aux États-Unis, hein, ça a été formidable. Et j'appelle le New York Times, dont je connaissais les propriétaires. Je dis, écoutez, je voudrais acheter la moitié d'une page. Alors il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Je dis, je veux annoncer mon concert de demain. Et j'ai mis Régine, oui, qui chante Ma Yiddish et ma mère dans Mazel Tov, Mazel Tov, sera demain. Ça a été une ruée. C'était la ruée vers l'or.
Voilà. Et cette chanson, elle est dans ce coffret sous le titre Le jour où tu te maries.
En ce jour.
Ah oui. Je l'ai chanté pour le mariage de ma petite fille.
Voilà. Très belle chanson aussi. Avec une mélodie et des paroles, ce qui est plus très fréquent aujourd'hui.
Mais Eddie Marnay est...
Eddie Marnay qui a découvert, qui était le premier à croire en Céline Dion aussi quand personne n'y croyait.
Exactement.
Alors, il y a une autre chanson qui fait partie de vos chansons cultes et aujourd'hui, il est impossible de se rendre dans une boîte de travestis sans l'entendre. C'est La Grande Zoa.
Quand vient le mardi, La Grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, La Grande
Zoa... Ça aussi, c'est votre Marseillaise personnelle.
Non mais... Ça aussi, c'est une anecdote, t'as tombé par terre. Je peux parler ?
Allez-y.
Alors, cette chanson a une anecdote extraordinaire. Moi, depuis que je suis gosse, j'aime les travestis. D'abord, j'aimais me travestir et j'aimais les travestis. Alors, quand j'en voyais de temps en temps, j'étais « Ah, je veux être comme ça », et je me mettais sur le balcon de chez mon père, au-dessus de la confiturerie. Je mettais les talons de ma belle-mère, les trucs, et je chantais. Jean-Claude Brialy m'appelle. Il me dit, Régine, je sais que tu es fâchée avec lui, mais vraiment, il faut que tu... J'ai perdu son nom tout.
Frédéric Botton,
que j'adore et qui m'a fait des très belles chansons. Frédéric Botton était un client de la boîte. Il venait toujours avec des jolies filles, très sympas, des baisers et tout. Et il foutait tout le temps en se cachant parce qu'il ne payait pas. Alors moi, je préférais qu'il me dise, j'ai pas de pognon pour te payer, et puis c'est tout. J'aimais pas la façon qu'il faisait ça, alors je lui ai dit, tu viendras plus chez moi, allez. Donc il va voir Jean-Claude Brialy, il lui dit, Jean-Claude, je t'ai fait une chanson extraordinaire. Alors Jean-Claude lui dit, je suis pas chanteur. Il dit, non mais écoute, écoute ça. Et donc je lui fais écouter la grande voix, et Jean-Claude lui dit, mais t'es fou, tu sais pour qui cette chanson, c'est pour Régine. Il dit, mais non, mais elle veut pas me parler, c'est parce que je pars de sa boîte sans payer. Ah, il dit, ah ben, je vous l'appelle. Donc il m'appelle et il me dit, non, il faut que tu écoutes cette chanson, je t'assure, ça vaut tout au monde. Bon, donc Botton arrive, je suis à peine aimable, il est un peu mal à l'aise, et il y avait donc Eddie Marnay et mon pianiste, est quand même un des plus grands qui accompagnait Jean Sablon. En fait, je veux dire, alors ma mère, il me parlait de Jean Sablon tout le temps. Moi, Jean Sablon, je le voyais dans les... C'est parce qu'il était très snob, Jean Sablon. Et moi, j'ai vu sa photo en 40 dans une salle où j'ai été voir Premier Rendez-vous, où il y avait toutes les photos d'Harcourt, et il y avait les photos des beaux hommes, bien sûr. Et moi, je suis tombé en amour pour Jean Sablon. Alors Jean Sablon, il allait l'accompagner tout le temps au Japon et tout ça. Et il me disait, il y a des synagogues au Japon.
Donc Botton...
Pas Sablon.
Botton. Alors Botton arrive chez vous, vous êtes à peine aimable.
Oui, alors il se met au piano, et son allure déjà était assez marrante. Quand vient le mardi, la grande Oa, mais ses bijoux, ses chinchillas. Moi, tout de suite, je dis, c'est pour moi. Je vois mes deux directeurs artistiques qui faisaient une tête, mais épouvantable. Ils me disent, tu ne vas pas chanter ça. J'ai dit, bien sûr que je vais chanter ça. Ah, mais on n'est pas d'accord. J'ai dit, mais je m'en fous. Je vais chanter la grande Zoa. Et avec un boa et tout. Et voilà.
Et c'est comme ça que c'est né.
Alors, je pense que la grande Zoa, je voudrais dire quelque chose de plus profond, c'est que la grande Zoa a été quand même, pour Charles, qui me l'a dit d'ailleurs, ça lui a fait faire la chanson. Ils disent, pour
Frédéric Botton,
est-ce une maladie? Oui. Et je pense que ça a donné aux gens une façon de penser et de regarder ce qui était une chose amusante d'une autre façon. Et je suis très fier de l'avoir chanté et de l'avoir dans mon répertoire. Alors, d'ailleurs, personne n'ose la reprendre.
Personne.
Sauf dans les clubs méditerranéens où tous les garçons, les gentils membres. Alors, il y en a toujours un qui faisait une Régine. Alors, moi, je disais, j'ai pas besoin de faire une tournée. De toute façon, il y a des Régines partout.
Ah, il faut savoir que les cabarets de travestis, Michou a débuté en reprenant une ancienne blanchisserie. Et un jour, Jean-Marie Rivière pousse la porte d'une imprimerie fermée. Et c'est là où il loue, il achète les lieux. Et il va créer l'Alcazar, lieu connu où tout le monde, le tout Paris est venu comme chez vous.
Ouais. Non, mais il faut dire la vérité, c'était génial.
C'était génial.
C'était d'une drôlerie. C'était fou. C'était drôle. Il y avait en même temps beaucoup de gens, disons, et de la littérature et c'était drôle. Et de voir Marc Dolnitz sur le trapèze avec ses bouclettes blanches et tout. Non, mais on a vu des choses extraordinaires qu'on ne reverra pas.
Voilà. Alors il y avait un client aussi de votre club qui était très important et qui venait tous les soirs, c'était Serge Gainsbourg. Et un jour, il vous propose une chanson qui s'appelle Je te prête Charlie, mais il s'appelle Reviens. Et cette chanson vous plaît pas vraiment, Régine?
Alors, en face de... Moi, j'étais barmaid, hein. J'étais barmaid du Whisky à Gogo, qui était avant le Plancher des Vaches, enfin bref, juste en face d'un restaurant très fameux. Et cette rue du Beaujolais, cette portion de rue, il n'y avait que des stars qui habitaient là, qui sont devenus des grandes stars, et d'autres qui étaient. Colette, que j'ai eu la grande joie de faire sa connaissance. Je ne lui ai pas dit que je l'avais vue sur le piano de Maurice Chevalier à poil, parce que je trouvais pas ça bien, parce qu'elle m'a dit, mets-toi là, explique-moi ce que tu fais. Parce que son mari, tous les soirs, sortait le chien et venait boire un whisky que je lui offrais, et je lui disais, je veux voir Colette, parce que moi, j'adore Colette, et je... Donc un soir, il me dit, elle est bien, va la voir. Donc c'était merveilleux. Et elle m'a dit, tu sais que moi j'ai dansé au Bataclan. J'ai dit, je sais, parce que je vous ai vu en photo sur le piano de Maurice Chevalier. Elle m'a dit, elle est drôle, hein, cette photo. Elle était extraordinaire.
Et donc Serge Gainsbourg vient chez vous un jour.
C'est moi qui vais.
Vous allez chez lui?
À Miller-Larsouille, non. Dans un boui-boui qui était en face, aussi dans la rue du Beaujolais, qui s'appelait Miller-Larsouille. Et qui était tenu par un type qui s'appelait Francis
Claude
et Michel Arnaud.
Voilà. Hein,
je ne sais pas s'ils étaient ensemble ou pas, mais enfin bref, on s'en fout. Et mais quand même, je suis là et je vois ce jeune homme, comme la tête rasée, avec deux grandes oreilles. Et un type au piano, c'était Jean-Yann, qui disait des horreurs, comme habillé en prêtre défoqué. C'était à mourir de rire. Simplement, il fallait faire attention de ne pas se casser la figure quand on descendait les petits escaliers étroits. On se fallait qu'on se tienne comme ça au mur. Et je venais donc tous les soirs écouter. Et je lui ai dit, tu sais que moi, je m'occupe de ça. Donc, on a commencé à se voir beaucoup. Et après, pendant 10 ans, on ne s'est plus vus. Et quand j'ai rechanté, je l'ai appelé. Et il est venu tout de suite. Et il est venu avec... À ce moment-là, il était marié. Et moi, chez moi, je suis plutôt en robe de chambre avec des bigoudis. Bon, je ne sais pas. Je fais assez de tralala en extérieur. Intérieurement, chez moi, j'ai une tendance à être plutôt rigolote. Et... Donc,
Gainsbourg vous propose une chanson.
Ouais, il me dit, voilà, je t'ai fait une chanson. Et il avait un petit sourire comme ça, et il me commence. Je te prête Charlie, mais il s'appelle, reviens, prends-en bien soin, comme si c'était le tien. Enfin, un truc très court. Je lui dis, c'est tout ? Pas contente. Je lui dis, mais Serge Gainsbourg, parce qu'entre-temps, il avait pris du galon quand même beaucoup dans la chanson. Et il me dit, écoute, j'ai fait un truc, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Je ne sais pas si c'est un poème, si c'est une chanson. J'ai mis comme ça en ligne des mots. Et il a commencé à chanter. Laissez parler les petits papiers à l'occasion, papier chiffon.
Laissez parler les petits papiers.
Le miracle.
À l'occasion, papier chiffon. Puis si un soir, papier buvard.
Encore une chanson qui a marqué votre carrière et qui figure dans ce coffret dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, la date de sa sortie, le 10 décembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Régine.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Régine. Alors Régine, donc le 10 décembre 2019, il y a quelques semaines, est sorti ce coffret magnifique de La Petite Poule à la Grande Zoa. Alors, c'est un coffret étonnant parce qu'il y a 245 chansons qui ont été remasterisées par Mathieu Moulin, le directeur artistique de Marianne Mélodie. C'est vraiment un coffret unique, c'est votre intégrale de chansons avec des inédits en plus.
Avec des inédits, même des chansons dont je ne me souvenais pas. Parce que quand on enregistre en général, on choisit toujours plus de chansons. Et après, on dit, bon, on verra lesquelles vont les mieux avec eux. Et quelque part, je les avais oubliées. Entre tout ce que je faisais la nuit, tout ce que je faisais le jour, et tout ce que je bavardais, enfin, je veux dire, tous les... Et les voyages et tout, il a retrouvé tout. Et c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et c'est quelque chose pour toutes les générations, puisqu'on écoutait il y a quelques instants Les Petits Papiers, et que Les Petits Papiers, on l'apprend à l'école aujourd'hui.
Absolument.
C'est fou, hein ?
Il y a des collèges entiers qui m'appellent pour que je vienne assister à leur... la façon dont ils le mettent en scène. Et dans la rue, il y a des gosses qui me disent « Hé, ce petit papier !»
Alors, c'est le cas aussi des chansons comme « Aux Champs-Élysées » de Joe Dassin, qu'on apprend dans les écoles. Joe Dassin, qui a débuté en première partie d'un spectacle que vous donniez à l'Olympia.
Avec moi.
Oui.
Et je lui ai trouvé sa première chanson. Il était comme ça, accoudé à mon bar. Il m'a dit « J'arrive pas à trouver un titre. La boîte de disques va me foutre dehors. » Je connaissais bien son père, Jules Dassin. Et aussi Mélina Mercury.
Oui, sa belle-mère.
Sa belle-mère, qui était vraiment deux personnages extraordinaires. Et il était au bord des larmes. Et je venais de proposer à Sacha Distel une chanson que j'avais ramenée du Brésil, qui s'appelait Bip Bip.
Oui.
Toute bête. Comme il me l'a refusé, moi je m'en fous, je n'étais pas productrice, hein. J'ai dit, écoute, si tu veux, je te donne la chanson, hein, parce que j'ai pris les droits en pensant à Sacha, mais bon, je te les donne. Et il a chanté Bip Bip, et Bip Bip a été un succès énorme.
Son
voilà,
premier
comme
succès.
Quoi je porte bonheur. Hein.
Voilà, et aussi un autre de vos succès énormes, c'est Patchouli Chachila.
Moi, je serai plutôt gitane filtre et bistrot, Patchouli Chachila, la.
Alors, voilà encore une chanson qu'on reprend partout, dans les bals, dans les soirées, aujourd'hui, Régine.
Eh oui. Mais maintenant, j'ai lancé les guinguettes il y a 2 ans.
Oui.
3 ans même. Et maintenant, je vais les lancer en grand.
Voilà. Enfin, parce que c'est vraiment... ça fait partie d'un... Comment vous aviez le sens
les
de ces chansons ?
Les gens ont besoin de danser.
Oui.
Non, j'ai dit... À un moment, j'ai dit... Les discothèques, c'est fini. Voilà. On va retourner au live, il faut retrouver de la vie, du sang, de l'humeur et tout. Tout le monde m'a regardé d'un air bizarre. J'ai fait donc 3 soirées à Deauville sur les planches, j'ai fait ouvrir toutes les lumières sur les planches, et les gens pouvaient manger, et moi je chantais. bien sûr les chansons les plus commerciales et les plus... je n'allais pas leur chanter « Un jour je quitterai tout » pour qu'ils pleurent. Oui. Non, non. Je leur chantais les chansons parce que mon répertoire est fait de tellement de diversification dans les styles et dans les... Et... Mais ce qui m'amuse le plus, c'est quand un pianiste me dit « Vous chantez dans quel ton ?» Je dis « Écoutez, excusez-moi, je ne connais rien de la... Je commence et vous me suivez.
Voilà. » Alors, il y a une autre chanson qui est restée célèbre pour des raisons différentes et que vous avez été la première à interpréter, c'est « Je survivrai ». Ça aussi, ça a été un succès mondial. Vous êtes la première, avant l'équipe de France, avant les Bleus, à avoir découvert cette chanson, Régine.
Moi, j'ai découvert cette chanson à New York par un petit jeune qui est venu me voir et qui m'a dit, Régine, je crois que je tiens un titre formidable et puis je voudrais lancer une noire qui a une voix formidable. Il me fait écouter ça. Alors je lui dis, écoute, on fait un deal. Je t'achète la chanson pour un an. Je la lance en France et après, je ferai venir ta Gloria Gaynor qui a une tête sympathique et qui est juste ce qu'il faut pour faire un succès. Et on la lancera au Palace. Bon, j'ai donc fait ça et j'ai fait venir Gloria Gaynor et le gimmick du milieu, c'est le mien.
Bien sûr.
Il n'est pas dans l'original de la musique qu'il m'a donnée. C'est un garçon qui est étrange, qui ne veut pas qu'on parle de lui, et qui travaille avec beaucoup de gens, qui fait les gimmicks, qui fait des orchestrations. Et vraiment, c'est un gros succès.
Alors, non seulement ça, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, l'album, la chanson était en face B dans 45 tours, et quand la chanson a eu du succès, elle est revenue en face A, et les Bleus l'ont ensuite adoptée.
Absolument. Alors, les Bleus, c'est le gimmick qu'ils ont adoré. Oui. Et le gimmick, c'était le mien. Mais moi, j'ai chanté cette chanson beaucoup. Je la chante beaucoup sur scène. Et les gens la chantent dans la salle. C'est à mourir de rire.
Et il y a une autre chanson aussi qui est une partie vocale particulière de votre répertoire. Régine, c'est « Pourquoi un pyjama ?» Ça vous fait rire encore cette chanson? Parce que ça, c'était aussi étonnant. Alors, pourquoi un pyjama, ça vous correspond? Parce que vous avez très peu dormi dans votre vie, Régine.
Moi, je n'ai jamais mis de pyjama de ma vie. Ouais. Ben, c'est ce que je disais dans la chanson. Mais ce qui était amusant, c'est quand Serge faisait une chanson pour moi.
Oui.
Alors, c'était un tel cinéma. Alors, il m'appelait. Il me disait, tu as du temps demain à 2h? Je disais, pourquoi 2h? Je peux venir avant. Non, 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 à 2h, parce que je dors. Et on regardera un film, parce qu'il adorait regarder des... Alors, on regardait Scarface, je ne dis pas le nombre de fois que j'ai vu Scarface. Donc, d'abord, on regardait son film, on allait dans sa chambre, le truc tombait, et il était obsédé par ses... Et moi aussi, j'adorais les films, de toute façon. Mais je les avais déjà vus 25 fois. Donc Et après, on descendait dans ce salon incroyable, tout en serge noir.
Oui, rue de Verneuil.
Rue de Verneuil, où il y avait une atmosphère absolument... Alors il me disait, écoute, je vais te faire écouter une chanson. À mon avis, tu vas dire non. Tu ne vas pas vouloir la chanter. J'ai dit, bah, écoute, ne me la fais pas écouter, alors. Hein, si tu veux que je te chante quelque chose, tu me le fais écouter, mais tu me le fais maintenant, parce que ça fait 4h30 que je suis là. Et je voudrais bien l'écouter, moi, cette chanson. Alors, il me dit, oh, écoute-toi, pas énervé. Je suis pas énervé, je dis simplement que j'ai d'autres rendez-vous aussi. Ah, tu sors avec qui? Bref, lui et moi, c'était l'entente totale.
Alors, dans cet album, il y a 16 chansons inédites et des chansons en italien, en espagnol, en allemand. Et il y en a une qui s'appelle Paris, en allemand, que personne ne connaît, en tout cas en France.
Paris. Ah si, elle est connue. J'ai chanté à Monte Carlo sur scène.
Bien sûr, mais en allemand, on la connaît pas.
Ah, en allemand, non. En yiddish, ça aurait pu mieux faire.
C'est vrai qu'on a oublié que vous avez fait une carrière internationale, Régine, non seulement dans les discothèques, mais dans la chanson.
Oui. Mais la question s'est posée. Hein. Stark m'a proposé de me produire bien avant que la petite, là, qui est un amour.
Mireille Mathieu.
Oui. Et aussi celui qui était qui s'occupait de Sacha, qui était très sympa d'ailleurs.
Claude Def.
Hein?
Claude Def.
Non, pas Claude. Claude, c'était son.
Ouais.
C'est le garçon qui travaillait avec lui. Non, son agent.
Oui.
Qui était vraiment très solide. Et je voyais mon personnel qui faisait la tête, qui disait mais maintenant qu'on a du succès, on était au Whisky à Gogo, hein, déjà. Ouais. On était, je veux dire, au Jimmy's. Il y avait les rôles devant la porte. C'était la folie, quoi. Ils croyaient que j'allais les abandonner. J'ai dit non, vous inquiétez pas, moi, c'est la nuit qui m'intéresse. Et voilà, j'ai choisi de faire mon métier jusqu'au bout. Moi, j'ai la fidélité dans ce que je pense et dans ce que j'ai envie. Donc, maintenant, je vais devenir une chanteuse.
Voilà. Alors, vous avez été une spécialiste de la nuit, mais vous avez quand même chanté à Azzurro.
Azzurro, le ciel est bleu comme l'Azzurro.
Ça, c'est gentil,
ça. En Italie, Azzurro.
C'est une belle histoire, ça aussi,
Régine. Ah, si, ça, c'est une belle, grande histoire, même.
Racontez-nous.
Alors, je vais au Midem et je vois tout d'un coup un personnage arriver derrière le rideau, il se cachait et il commence à chanter « Azzurro ». Alors, en italien, bien sûr. Comment il s'appelle ? C'est un chanteur très connu. Oui.
C'est pas Celentano ou...
Hein ? Celentano.
Celentano.
Et il se cachait derrière le rideau, il se roulait dans le rideau, il me faisait rire. Mais surtout, la chanson, elle m'est restée dans la tête. Donc j'ai dit, mais j'ai été le voir, j'ai dit, mais qui a produit cette chanson ? Il me dit, oh, c'est très compliqué, c'est l'avocado. C'est quoi l'avocado ? C'est l'avocat qui l'a écrit, mais pas sur son nom, et il faut lui l'acheter à lui. Donc, finalement, je vais à Milan, je vais voir l'avocado, qui est devenu une très grande star dans la chanson aussi, et on parle en français. Et je lui dis, écoutez, je viens vous acheter votre chanson. Il me dit, elle n'est pas à vendre. J'ai dit, mais si, vous me la vendez pour tant d'années, et puis vous allez voir, c'est... Parce que moi, je suis folle de cette chanson, et je ne dors pas, il faut absolument que je... Alors il m'a dit, moi, je suis avocat, mais peut-être que d'ici un an ou deux, je vais faire 6 mois avocat et 6 mois de la scène. Alors, ça a fait la fortune de Monsieur Guzman, qui était mon agent.
Oui.
Et qui commençait dans ce métier, je l'ai envoyé voir. Et j'ai fait Azzurro, qui a été un succès énorme, et qui est un succès énorme. Et vraiment, ce personnage que je venais de rencontrer était un homme, il est un homme formidable.
Vous n'allez pas vous arrêter là, Régine ?
Pardon ?
Vous n'allez pas vous arrêter là ?
Non, je vais rester là, je veux faire ma comédie musicale, oui. Les Lumières de Belleville, en hommage à mon père et à... Et à moi-même, hein, on trouvera une Régine, et puis j'apparaîtrai, je ne sais pas ce que je ferai, mais je ferai.
Voilà, je suis pas inquiet.
Je ferai quelque chose.
Je ne suis pas inquiet avec vous. Cet album s'appelle « De la petite poule à la grande Zoa », un coffret de 10 CD, 245 chansons. Merci Régine, continuez ainsi, ne changez surtout rien.
Merci, je vous souhaite d'avoir tous les jours quelqu'un qui connaît tous les gens que j'ai connus.
Ça va être difficile, mais j'en prends acte. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye, nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.